Vous
Est-ce
écoutez
que je peux être
On lit
féministe
pour vous.
et manger de la viande? Une chronique de Vanessa Destiné, parue le 27 juin 2025 dans Urbania. C'est la saison des grillades et du barbecue, c'est-à-dire le moment où je me sens le plus en vie dans l'année. Oui, je renais à la faveur des journées plus longues et du soleil ardent annonçant le solstice, mais j'aime d'abord l'été pour ses odeurs. Celle du chlore et de la crème solaire des colonies de vacances, comme celle accompagnant la fumée noire qui s'élève de mon petit Weber portatif pour annoncer un nouveau pape que le souper est presque prêt. Je ne me sens jamais autant en contrôle que quand je retourne 4 asperges préalablement blanchies puis une belle pièce de viande overpriced sur le grill. J'aime voir leur chair se défaire et entendre le petit grésillement induit par leur jus. J'aime que ma wig absorbe l'odeur de brûlé et que les effluves de roussi m'accompagnent jusque sous la douche que je prends fraîche vers 21 h pour me rapprocher des bras de Morphée. Je suis une femme de petits plaisirs. Je suis une femme simple. Une femme simple, mais pétrie de contradictions. Parce que, même si j'ai appris à apprécier la texture que prend un bloc de tofu grillé sur la broche, ma consommation de viande, pourtant timide durant l'année, explose durant la saison estivale. Soudainement, j'ai le palais rompu au régime carniste. « Baoum! Une autre affaire, vous entends-je dire. » Le carnisme, qu'est-ce que ça mange en hiver? De la viande, essentiellement. En fait, le carnisme, c'est un système de valeurs associé au spécisme. Reste avec moi le temps que je fasse ton éducation, babe. Peace and love and Aristote. Le spécisme, c'est un concept philosophique dont le fondement remonte à l'Antiquité et qui désigne aujourd'hui une forme de discrimination basée sur la hiérarchisation entre les différentes espèces animales, humains compris. Le spécisme, en gros, c'est ce qui nous permet à nous, les Homo sapiens, d'avancer avec beaucoup trop d'assurance dans la vie en décrétant que nous trônons tout au haut de la chaîne alimentaire et que nos vies sont plus importantes que celles d'un poisson, d'un cochon, d'un cheval ou d'un éléphant, tiens. C'est une forme de discrimination qui fait qu'on accorde plus de droits ou de valeurs à certaines espèces du règne animal pour mieux justifier leur exploitation, que ce soit pour la nourriture, les vêtements, la laine ou la soie, par exemple, les tests en laboratoire, à des fins médicales ou commerciales, genre tester du maquillage, ou le divertissement, les zoos ou la pêche et la chasse sportive. C'est ce qui fait aussi qu'on va s'indigner que des gens à l'autre bout du monde mangent du cochon d'Inde ou du chien, pendant que nous, on mange du lapin et des cuisses de grenouille. C'est là, la petite hypocrisie qui nous pousse à crier au meurtre quand Longueuil annonce qu'elle doit tuer des chevreuils, alors qu'au Québec, on tue chaque année 5 millions de poussins mâles dans une indifférence généralisée. Bref, les discussions sur le spécisme ont pris du galon en Occident durant les années 1960-1970, une période marquée par de grands bouleversements sociaux comme le mouvement pour les droits civiques, la révolution sexuelle, la libération LGBTQ+, l'écologisme, le pacifisme et la décolonisation. On a tendance à les voir comme des mouvements séparés, mais pour bon nombre de militants de l'époque, lire les hippies gratteux de guitare, ces enjeux étaient tous interreliés. Surprise! Le concept d'intersectionnalité ne date pas d'hier, n'en déplaise à la CAQ. Le discours sur la protection des animaux et l'antispécisme s'est donc naturellement frayé un chemin à travers toutes ces luttes, sans toutefois parvenir à s'imposer de la même façon, le carnisme ayant la quen miam dure, comme humain, On a souvent le réflexe de se réfugier derrière des arguments biologiques pour justifier notre consommation de viande, le culte des protéines, alors qu'en réalité, elle a sûrement plus à voir avec notre conditionnement social. Après tout, l'humain est omnivore, pas carnivore. Et si on mange de tout, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout manger. Le genre de mantra que je devrais d'ailleurs prendre l'habitude de me répéter avant de m'enfiler une boîte de craquelins Cheez-It à moi toute seule les soirs de semaine où je suis triste. Et Dieu créa les véganes. En 1990, un essai révolutionnaire et largement considéré comme la Bible de la communauté végane voit le jour. La politique sexuelle de la viande par la militante féministe Carol G. Adams, qui a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une réédition. Dans son bouquin, la militante explique que la consommation de viande s'inscrit dans un rapport de domination qui a tout à voir avec le mot en P. Eh oui, le fameux patriarcat. Carol G. Adams soutient que la viande est un symbole de pouvoir et qu'elle est associée à la virilité. À l'opposé, les solutions alternatives à la viande ainsi que les mouvements de résistance à sa consommation, souvent défendus par des voix féminines au fil des siècles, sont perçus comme niaiseux, déconnectés, hystériques. Wow! Very étonnant, much surprise, such stupéfaction. Carol G. Adams est aussi la première à avoir théorisé le concept de référent absent, c'est-à-dire le fait qu'on dissocie mentalement les animaux des produits qu'ils nous procurent. On peut prendre l'exemple d'une publicité télé pour un gros burger juteux, extra bacon. Spontanément, on ne passe pas au cochon ou au bœuf. On voit juste le produit fini. Pour la militante, il s'agit d'une forme d'objectification des animaux similaire à celle que les femmes subissent. Vous vous doutez que cet essai a causé bien des remous à sa sortie il y a 35 ans, mais elle continue de nourrir, remiam, les réflexions de manière ponctuelle chez de nouvelles générations de militantes féministes. Bientôt, on la retrouvera au cœur du livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ?» Un ouvrage rédigé par la Québécoise Suzanne Zacour, chercheuse et autrice féministe également titulaire d'un doctorat en droit à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Suzanne pratique le droit en Ontario et se spécialise dans les violences genrées. Elle est aussi l'autrice d'un livre intitulé « La fabrique du viol. Des cochonnes en bas de résille. Dans « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu », Suzanne, qui est également coach vegan à 16 heures, explore les liens entre les violences faites aux femmes et l'exploitation des animaux, en particulier à travers notre manière de justifier ces deux formes d'oppression. D'entrée de jeu, elle souligne que toutes les formes d'exploitation animale devraient nous préoccuper, mais que le nerf de la guerre, c'est vraiment la consommation d'animaux pour la nourriture, viande, poisson, œufs, lait, etc., à cause du nombre de victimes qu'elle entraîne. Chaque année, on tue autant d'animaux qu'il y a eu d'humains sur Terre depuis les débuts de notre espèce. Vous avez bien entendu. C'est une violence qu'on ne mesure même plus, dit-elle, parce qu'elle est banalisée, comme la violence misogyne. En matière de la violence faite aux femmes, on utilise beaucoup l'idée du consentement pour la justifier. On va dire « elle l'a bien cherché, elle portait une jupe courte, elles aiment ça ». Aujourd'hui, on retrouve ce mythe dans ce qu'on appelle la nourriture suicide, c'est-à-dire des animaux présentés comme s'ils nous titillaient, comme s'ils insistaient pour être tués et mangés. Ça peut être la vache souriante et dansante sur les contenants de crème glacée Ben & Jerry, la fameuse vache qui rit, le coq taquin des rôtisseries Saint-Hubert ou encore les cochons sur le party dans les publicités du restaurant au pied de cochon, énumère-t-elle. Ce qui rend le mythe du consentement efficace, c'est de suggérer que les animaux sont comme des femmes. Exploitables. Consommables. C'est ce que Carol G. Adams appelle la pornographie de la viande. Par exemple, lorsqu'on présente un cochon en version cartoon avec de longs cils et du mascara, une jupe, des barésilles et du rouge à lèvres. Le message, c'est « Regardez, les animaux sont sexés. They're asking for it. » Vous écoutez « Est-ce que je peux être féministe et manger de la viande? » Une chronique de Vanessa Destiné, parue le 27 juin 2025 dans Urbania. Passer leur prime. Je me doute que vous lisez les réponses de Suzanne et que vous vous dites que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ou par la crinière, tout ça. Pourtant, les exemples où les femmes et les animaux sont des objets de consommation interchangeables pullulent. On le voit constamment dans la publicité. Il y a des exemples spectaculaires utilisés par des chaînes de restauration rapide comme chez le géant américain Carl's Jr. Je vous mets au défi de ne pas éclater de rire en regardant la compilation ci-dessous. Dans notre société, on féminise les animaux et on animalise les femmes. Le premier message implicite, c'est que pour être un vrai homme, tu manges de la viande et tu exploites les femmes. Le deuxième message implicite, c'est que ça ne les dérange pas, les femmes et les animaux, d'être traités comme ça. Si on veut une culture du consentement et non une culture du viol, est-ce qu'on peut vraiment continuer à avoir ce genre de discours ou de pratiques héritées du patriarcat? Questionne Suzanne. Comme exemple de pratique patriarcale, elle évoque les vaches laitières. L'idée que la vache produit du lait, c'est une construction sociale. Elle n'en produit pas plus que les autres mammifères, commence-t-elle. Pour produire du lait, on les attache à une structure que certains producteurs ne se gênent pas pour appeler le rack à viol, parce que c'est essentiellement ça, produire du lait. Prendre le sperme d'un bœuf, parfois obtenu en l'électrocutant, et avoir un fermier qui enfonce son bras au complet dans le rectum d'une vache, immobilisée de force, pour la mettre enceinte. Ensuite, on tue son veau et on la refait tomber enceinte et encore, puis on finit par la tuer pour faire de la viande hachée alors qu'il lui reste 20 ans à vivre. Mais elle est passée son prime. Ces mêmes producteurs n'hésitent pas à parler de vaches en les qualifiant de « bitch » à la blague. C'est très répandu. Mais je suis une bonne personne. Ce portrait brutal me rend physiquement inconfortable. Je me sens coupable. Sur la défensive, je rétorque à Suzanne qu'il semble tout de même y avoir une prise de conscience dans la population depuis quelques années. Il y a quand même beaucoup de personnes autour de moi qui, sans nécessairement faire de lien entre la misogynie et l'exploitation animale, essaient de faire des choix plus éthiques, parce qu'ils sont conscients que quelque chose ne va pas avec l'industrie de la viande. Ces personnes se tournent par exemple vers de petites fermes familiales qui semblent avoir une approche plus humaine. Les animaux qui sont exploités le sont de façon atroce, donc pas mal tous les types d'exploitation. Le reste, c'est du langage marketing. Par exemple, les poules en liberté. Les gens pensent que ça veut dire que les poules sont dehors. Or, les poules en liberté ne sont pas dehors. On est au Canada, il fait moins 25. Poule en liberté, ça veut juste dire que c'est pas une seule poule dans une minuscule cage. C'est plutôt de nombreuses poules enfermées ensemble dans un espace plus large, répond-elle. Cette expression « ferme familiale », ça veut rien dire non plus. Tous les fermiers ont des familles, peu importe la taille de leur élevage. La majorité des animaux exploités le sont dans un élevage de type industriel, même si c'est étiqueté en liberté ou biologique. Et quand on parle de viande locale plutôt que importée, ça ne change rien au fait que les animaux sont transportés des fermes aux abattoirs sans accès à de l'eau pendant de longues heures ou qu'ils subissent des procédures médicales sans anesthésie. Que le niveau de souffrance d'une poule soit à 25 sur 10 dans un gros élevage ou à 7 sur 10 dans une ferme dite éthique, ça ne change rien au fait qu'elle souffre. On ne naît pas poule, on le devient. Les explications de Suzanne sont limpides, mais quelque chose me chicote toujours. Je pense ici à la charge mentale des femmes. Les études démontrent que c'est souvent aux femmes qu'incombe le changement des habitudes de vie dans les ménages hétérosexuels. Ce sont elles qui portent la conscience sociale et environnementale de la famille. Ce sont elles qui se ramassent avec la responsabilité de remplacer les sacs Ziploc par des contenants réutilisables et ce sont elles qui se ramassent à chercher des alternatives aux produits d'origine animale et à essayer de convaincre conjoints et enfants que c'est vraiment hot le tempeh. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle source de culpabilité chez les femmes? C'est vrai que le véganisme est principalement défendu par les femmes, comme le sont plusieurs luttes sociales, d'Idle No More à Black Lives Matter, en passant par hashtag MeToo. Mais c'est aussi le propre du féminisme intersectionnel de reconnaître que le fait d'être opprimé par le patriarcat, ça ne nous empêche pas de bénéficier de certains privilèges. Par exemple, d'avoir le droit de vie ou de mort sur un autre être vivant, comme une poule qui n'a pas choisi de naître poule, argue Suzanne. Moi, j'ai aucun contrôle sur ce que tu manges. J'offre une façon de voir les choses. Si on croit que les animaux ont une valeur, si on croit qu'il faut être non-violent, qu'il ne faut pas exploiter sexuellement, qu'il ne faut pas causer des douleurs aux gens, peu importe de quoi ils ont l'air, c'est une réflexion qu'on peut étendre aux animaux. Je comprends ça. Comme femme woke, mais surtout anxieuse, j'essaie toujours d'être dans une démarche de déconstruction. Pas parce que je veux faire ma fraîche ou parce que j'ai peur d'être cancel, mais bien parce que je crois encore un peu naïvement à la possibilité d'un monde meilleur. Une vraie conne, je sais. En 2025, je suis consciente que ce n'est pas viable pour l'humanité de continuer de manger de la viande et pourtant, je refuse de renoncer aux brochettes de poulet marinées de chez Adonis. Je la prends, la bavette de bœuf en spécial. Je les veux, mes crevettes de matane, et j'ai absolument besoin de mon combo de viande froide pour manger avec mes Cheez-It. Pourquoi piler sur mon confort? C'est tout à notre avantage de rejeter les discours patriarcaux sous toutes leurs formes. Et c'est à notre avantage de créer une société de consentement et d'égalité. La façon dont on exploite les animaux, c'est aussi la façon dont on exploite les femmes. Ça s'est vu à plusieurs reprises dans l'histoire. Maintenir les femmes dans un état de gestation pour produire du lait, on le fait aux vaches. Mais on l'a aussi fait aux femmes noires, les esclaves nourrices à qui on enlevait leurs enfants. Note de la rédaction. Et rien ne garantit que ça ne se reproduira pas dans une société parallèle ou dans un futur dystopique rapproché où on déciderait que le lait humain, c'est mieux que le lait de vache, avance Suzanne. On sait déjà très bien quelle classe de femmes pourrait un jour se ramasser dans des élevages. L'histoire regorge d'exemples où on mélange animalisation et race, animalisation et handicap. Les animaux comme les femmes sont vus comme des corps que l'on peut s'approprier, ajoute-t-elle. Cette dernière phrase m'a donné froid dans le dos parce qu'elle m'a fait penser à l'histoire surréaliste d'une femme afro-américaine dans l'État de la Géorgie. En état de mort cérébrale depuis février dernier, Adriana Smith a été maintenue en vie jusqu'à la mi-juin par les autorités sans que sa famille ait eu son mot à dire parce qu'elle était enceinte au moment de sa mort. Adriana, qui était basically un cadavre sur papier, devait mener sa grossesse à terme, puisque son fœtus était considéré comme viable, en vertu des lois sur l'avortement en place. Les docteurs ont pratiqué une césarienne sur son corps inerte. Surprise, un cadavre n'a pas de contraction. Le 19 juin, pour donner naissance à un petit garçon qui ne connaîtra jamais sa mère. Cette femme noire est donc essentiellement devenue un incubateur, une poule pondeuse. Le futur hypothétique que décrit Suzanne, c'était hier en fait. Alors, est-ce qu'on peut être féministe et manger de la viande? Je ne sais plus. Mais je sais qu'une vieille vache fatigante a dit un jour « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devez rester vigilante, mes poulettes. » C'était « Est-ce que je peux être féministe et manger de la viande? » Une chronique de Vanessa Destiné, parue le 27 juin 2025 dans Urbania.
Alimentation, statut et esthétique récessionnaire. Un texte de Leïcha Touri, paru le 14 juillet 2025 dans Le Gaboteur. Une analyse politique de la consommation culinaire en période de crise économique. En tant que communicatrice politique et militante féministe, je suis de plus en plus sensible à la manière dont les choix du quotidien, notamment en matière d'alimentation, reflète des structures plus profondes de classe sociale, de pouvoir et d'identité. L'un des indicateurs les plus clairs de ce phénomène aujourd'hui est la manière dont la nourriture est mise en scène comme symbole de statut dans un contexte de déclin économique. J'examinerai comment les politiques alimentaires sont façonnées par l'esthétique récessionnaire, l'auto-représentation néolibérale et le désir de stabilité dans la précarité. Je soutiens que la consommation alimentaire n'est pas apolitique, mais constitue un lieu culturel et matériel de lutte des classes et de signes sociaux qui mérite une attention politique urgente. En période d'incertitude économique, les habitudes de consommation ne disparaissent pas, elles se transforment. L'indice du rouge à lèvres, terme popularisé pour désigner l'augmentation des achats de cosmétiques lors des ralentissements économiques, illustre bien cette dynamique. Plutôt que d'abandonner le consumérisme, les individus se tournent vers des luxes modestes. Aujourd'hui, la nourriture est devenue une monnaie de réconfort. La popularité du pain au levain rustique, du lait d'avoine en petite production et des pâtisseries haut de gamme en supermarché ne relève pas simplement de la mode. Ce sont des actes codés de performance culturelle. Alors que l'inflation et l'emploi précaire redéfinissent la vie de la classe moyenne au Canada, ces aliments servent à la fois de mécanisme d'adaptation et de moyen d'affirmer son goût, sa distinction et sa maîtrise. En mobilisant la théorie du capital culturel de Pierre Bourdieu, il devient évident que la nourriture est un médium par lequel les individus expriment leur identité de classe et revendiquent un pouvoir symbolique. Dans « La distinction », Bourdieu soutient que le goût n'est jamais une simple préférence individuelle. Il est l'expression structurée d'un positionnement social. Le paysage canadien contemporain en matière de consommation incarne parfaitement cette idée. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on mange, mais de la manière dont on mange. Comment on présente un croissant, comment on photographie un matcha, d'où proviennent les aliments. Ces choix diffusent un message de résilience économique et de contrôle esthétique dans un monde instable. Ce que j'observe dans les espaces numériques, en particulier sur Instagram, TikTok et les forums lifestyle de niche, est une esthétique croissante de la stabilité. Les utilisateurs et utilisatrices n'exhibent plus l'extravagance, mais mettent en scène un calme domestique. Bocaux soigneusement étiquetés, pain fait maison, repas équilibrés dans des contenants en bambou. C'est ce que j'appelle la tendance des normalités de la classe moyenne. Elle révèle une aspiration collective à la maîtrise et à l'apaisement par la familiarité, l'ordre et la prévisibilité. En effet, cette esthétique fonctionne comme un rempart face au chaos psychologique et matériel d'un capitalisme en crise. Cependant, ce retour au minimalisme et au confort n'est pas aussi inclusif qu'il le paraît. Tandis que certains Canadiens peuvent styliser leur consommation pour refléter la sobriété et la simplicité, d'autres luttent contre une insécurité alimentaire croissante. En 2023, Banques alimentaires Canada rapportait que près de 2 millions de personnes avaient eu recours aux banques alimentaires en mars seulement, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Ces chiffres révèlent l'écart entre la nourriture en tant que performance de style de vie et la nourriture en tant que besoin fondamental. Le garde-manger digne d'Instagram et le panier d'urgence alimentaire coexistent dans le même univers politique, mais rarement dans le même univers culturel. Par ailleurs, l'esthétique alimentaire récessionnaire doit être comprise dans le contexte de l'extraordinaire capacité du capitalisme à absorber la critique. Comme l'a soutenu Naomi Klein dans « No Logo », les sentiments anticorporatistes peuvent être récupérés et revendus aux consommateurs. La vague actuelle du luxe discret en alimentation, comme les céréales patrimoniales, les confitures artisanales et les cuisines zéro déchet, reconditionne la rareté en vertu et réinscrit subtilement les inégalités. Ce qui relevait autrefois de la nécessité économique, comme les repas maison ou les conserves, est aujourd'hui stylisé comme une forme de supériorité morale et d'art de vivre raffiné. Les implications politiques dépassent la sphère économique pour toucher à l'identité nationale. Au Canada, on observe une montée parallèle du nationalisme culinaire. Marché fermier, campagne locale d'abord, reconnaissance de recettes nostalgiques. Bien que ces mouvements se présentent comme durables et communautaires, ils peuvent également produire des récits d'exclusion autour de l'appartenance. Comme le montre De Soucey dans son étude sur le gastronationalisme dans l'Union européenne, la nourriture est souvent mobilisée pour renforcer des conceptions étroites de l'authenticité culturelle et de l'héritage. Dans un pays aussi diversifié que le Canada, le nationalisme culinaire risque d'aplanir les réalités multiculturelles au profit d'une nostalgie colonialiste et d'un patriotisme consumériste. Tout cela nous mène à une intervention politique nécessaire. Il est impératif de prendre l'alimentation au sérieux en tant qu'enjeu de politique publique, d'identité et d'équité. La culture alimentaire esthétisée, surtout en période de contraction économique, peut masquer les profondes inégalités matérielles qui déterminent qui peut consommer quoi, quand et comment. Pour y remédier, il faut aller au-delà des critiques des tendances de style de vie. Nous avons besoin d'un cadre politique robuste qui traite l'accès à une alimentation nutritive et digne comme un droit humain. Cela implique d'augmenter le financement des programmes alimentaires communautaires, de réguler les prix pratiqués par les grandes chaînes d'alimentation et de remettre en question les structures qui permettent à l'inégalité de se déguiser en bon goût. En somme, l'alimentation au Canada aujourd'hui dépasse largement la simple nutrition. Elle est un symbole de statut, un script culturel et un terrain politique. Le passage récessionnaire de l'opulence à la modestie esthétique reflète à la fois une tentative de maîtrise et une angoisse profonde de perte de statut social, de stabilité et d'avenir. Comprendre la nourriture comme un signifiant politique nous permet de poser des questions plus précises sur qui bénéficie de ce changement esthétique et qui en est exclu. En tant que chercheurs, chercheuses et citoyens-citoyennes, Nous devons interroger les récits que nous construisons à travers ce que nous mangeons et exiger des politiques qui garantissent que personne ne soit laissé pour compte. C'était « Alimentation, statut et esthétique récessionnaire », un texte de Leïcha Toury paru le 14 juillet 2025 dans le Gaboteur.
Submergé par les objets accumulés, un texte de Catherine Anfield, paru le 30 juin 2025 dans la presse. Le trouble d'accumulation compulsive, ou TAC, est souvent illustré à coups de photos spectaculaires de logements insalubres. Or, le TAC a plusieurs visages. Lumière sur ce trouble de santé mentale et sur le lot d'anxiété qu'il peut générer en cette période de déménagement. Encombrement physique et mental. La presse est entrée dans les logements et les quotidiens de deux personnes qui accumulent des objets de façon excessive et qui veulent s'en sortir. Suzanne a préféré taire son nom de famille et Ève, son prénom aussi, de peur d'être victime de représailles. Lorsque Suzanne P. a emménagé dans son appartement au début des années 1990, elle en était fière. C'était le plus beau du bloc, se souvient-elle. À l'époque, Suzanne avait un emploi et elle s'occupait bien de son chez-soi. Elle le précise d'emblée, elle vient d'une bonne famille, honnête, travaillante. Et elle a fait des études post-secondaires. Les problèmes d'accumulation compulsive, ça ne touche pas juste les gens pauvres ou les gens atteints d'un trouble de santé mentale les rendant inconscients de leur situation. Ça englobe tout le monde, résume Suzanne. Les riches comme les pauvres, les propriétaires comme les locataires, dit-elle. On dit souvent qu'il suffit de quelques coups durs pour perdre pied. C'est ce qui est arrivé à Suzanne. Tout s'est joué coup sur coup, il y a une quinzaine d'années, à la mi-quarantaine. Un épuisement professionnel, l'infidélité de l'homme qu'elle aimait, une agression, puis une relation marquée par la violence. Suzanne s'est retrouvée prestataire de l'aide sociale. Dans la foulée de ses traumatismes, elle a commencé à espacer les jours de ménage et à accumuler du matériel. Au début, c'était léger, dit-elle. Une pile de papier sur un bureau, des vêtements éparpillés, puis les objets se sont accumulés. Pas des trucs trouvés dans la rue, précise Suzanne. Des cadeaux qu'elle s'offrait pour embellir son quotidien. Le premier du mois, j'allais au Dollarama. Ça faisait du bien à l'estime et ça me donnait du pouvoir. Moi aussi, j'étais capable de m'acheter des affaires, résume la sexagénaire rencontrée chez elle dans le nord de Montréal. Au salon, son chien dort à ses pieds à côté d'un grand sofa entièrement recouvert d'objets. Au coin, une cage de souris trône sur une pile d'objets. Derrière, une grande bibliothèque, bien garnie elle aussi. Ici, mon kit de chandelles et encens. Ici, les jeux. Là, la couture et les bibelots, énumère-t-elle. Même sur le sofa, Suzanne à un système. La section animaux, la section peinture, la section CD de méditation. Au sol, une pile d'agendas, dont quatre de 2023-2024. Elle regrette d'en avoir acheté autant, mais préfère les garder pour griffonner. Au moins, les arbres ne seront pas morts pour rien, philosophe-t-elle. Et j'y travaille à régler cette dysfonction d'achat compulsif. Suzanne savait qu'elle avait un problème depuis longtemps, mais hésitait à demander de l'aide, de peur de s'auto-dénoncer auprès des autorités municipales. Son propriétaire l'a devancé. « Depuis 2-3 ans, il vient et il prend des photos, » dit-elle. Suzanne a suivi 2 ateliers auprès d'organismes en santé mentale pour comprendre la source de ses difficultés et apprendre à les surmonter. Selon elle, 85% du chemin est parcouru. Bien que le commun des mortels se sentirait à l'étroit dans son espace de vie, les choses sont désormais classées et le corridor dégagé. « Ici, c'est ma sécurité, » dit celle qui craint de devoir déménager dans un minuscule appartement où les animaux sont interdits. Elle jette un œil à son chien, qui roupille toujours à ses pieds. Suzanne se demande d'ailleurs si les démarches de ses propriétaires ne sont pas un prétexte pour l'expulser, car elle paie la moitié du prix courant pour son 4,5. Tac et Diogène. À la maison Scorpion, les mois qui précèdent le 1er juillet sont « rock'n'roll », convient le propriétaire Stéphane Felto. Jadis technicien en gestion parasitaire, Stéphane Felto a ouvert la maison Scorpion pour répondre à un besoin, le désencombrement et le grand nettoyage des logements, qu'il y ait ou non présence d'insectes. « Plusieurs de mes clients font face à des évictions, dit-il, parce que les propriétaires ont ouvert un dossier au tribunal administratif du logement, TAL. D'autres fois, ce sont les services d'incendie, de police ou d'ambulance qui ont essayé d'intervenir et qui ont constaté que le logement ne correspond pas aux normes. Les sorties de secours sont obstruées. Les corridors sont trop étroits pour y circuler. Le dessus de la cuisinière est encombré, etc. Le TAL a rendu des dizaines et des dizaines de décisions contenant les termes syndrome de Diogène ou trouble d'accumulation compulsive, parfois favorable aux locataires, parfois favorable aux propriétaires. En vertu du Code civil, les locataires ont l'obligation d'user de leur logement avec prudence et diligence et de maintenir celui-ci en bon état de propreté. Le syndrome de Diogène se caractérise par une grande négligence de son environnement, souvent accompagné d'accumulation de déchets ou d'objets. Le TAC, pour sa part, est un trouble de santé mentale reconnu depuis 2013 par le DSM-5, la Bible en santé mentale. Il implique la présence d'un certain discours derrière le fait de garder les objets ou les déchets. Cela pourrait être utilisé ou recyclé. Je pourrais en avoir besoin un jour, ainsi que d'une détresse associée au fait de s'en départir. Entre 2 et 6 % de la population est atteinte du TAC, selon les études. 60 sacs poubelles. Ève, 25 ans, habite depuis l'enfance dans une coopérative d'habitation de Montréal. Depuis la mort de sa mère, elle vit seule dans son 4,5. Elle aimerait déménager dans un appartement plus petit et moins cher, dans la même coop, mais elle sait pertinemment que, pour en faire la demande, elle doit reprendre le contrôle sur son environnement. Ève est suivie par divers intervenants en santé mentale. Elle souffre d'un trouble bipolaire, d'agoraphobie, et du syndrome de stress post-traumatique. Nous l'avons rencontrée chez elle, dans l'ouest de Montréal, alors que l'équipe de la Maison Scorpion était à l'œuvre. Stéphane Felto nettoyait le fond des armoires de cuisine. Un employé s'apprêtait à nettoyer les murs. 20 ans de nicotine, précise Ève. Alors qu'un troisième s'activait dans les chambres. Ève a pu s'offrir leur service grâce à un héritage. Lors de notre passage, la jeune femme était nerveuse. Dans la cour arrière de la coop, la petite brunette fumait une cigarette en sirotant une boisson énergisante. « J'étais rendue à bout », a-t-elle confié. « Au lieu de fuir, j'ai décidé d'affronter la situation comme une adulte responsable. » Honteuse de son logement, Ève s'isole beaucoup. En 2024, elle a fait elle-même un grand ménage, mais n'a pas vraiment retouché son appartement depuis. Les déchets se sont accumulés. L'équipe de la Maison Scorpion a sorti 60 sacs poubelles. La mère d'Ève travaillait dans un site de récupération et rapportait des objets à la maison. Ève se souvient des piles de journaux qui montaient jusqu'au plafond. Après son décès, avec 5 voisins, on a travaillé 16 heures dans une fin de semaine pour tout vider, se souvient-elle. Ève ressent de l'anxiété lorsqu'elle sort les ordures et un certain confort dans un milieu surchargé. L'encombrement lui permet aussi de cacher des souvenirs douloureux dans cet appartement où elle a grandi, dit-elle. « Je laissais ça de même, parce que je ne voulais pas avoir de flashback », résume la femme, qui dit avoir été victime de violence de son père. Le fait de retrouver son espace la soulage néanmoins. Elle pourra enfin installer son lave-vaisselle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a récemment invité des amis chez elle. Vous écoutez, submergé par les objets accumulés, un texte de Catherine Anfield, paru le 30 juin 2025 dans la presse. Plusieurs recours possibles. Selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, CORPIC, les propriétaires font partie des partenaires pour rechercher des solutions dans les situations de troubles d'accumulation compulsive. Elle sensibilise d'ailleurs ses membres à ce sujet. Plusieurs recours sont envisageables, indique la CORPIC. D'abord, dialoguer avec le locataire et l'accompagner dans la mesure du possible. Visiter les lieux en présence d'un témoin et prendre des photos. Discuter avec les proches du locataire et, dans les cas plus urgents, contacter le service de sécurité incendie pour envoyer un inspecteur. Ce problème peut entraîner plusieurs répercussions pour le logement, l'immeuble et les occupants, souligne la CORPIC. Insalubrité, l'accumulation rend l'entretien difficile, bloque l'aération, attire les insectes nuisibles et favorise l'humidité et les moisissures. Risque de sécurité, incendie, et tension entre voisins. Mieux comprendre le TAC. Le trouble d'accumulation compulsive est un trouble de santé mentale aux multiples facettes. La psychologue Catherine Ouellette-Courtois nous parle des symptômes et de la façon de s'en sortir. TAC versus TOC. Le trouble d'accumulation compulsive, TAC, est dans la même famille qu'un autre trouble de santé mentale bien connu, le trouble obsessionnel compulsif, TOC. Ces deux troubles sont effectivement apparentés, explique Catherine Ouellette-Courtois, psychologue spécialisée dans les troubles du spectre obsessionnel compulsif au Centre universitaire de santé McGill. Les deux éléments principaux d'un TOC, ce sont les obsessions, une peur, et des compulsions pour repousser la peur. J'ai peur d'attraper une maladie, alors je me lave compulsivement les mains, donne-t-elle en exemple. Avec le TAC, à l'inverse, l'obsession est plutôt quelque chose que l'on désire, et la compulsion serait d'accumuler des objets ou d'éviter de s'en départir. un spectre. Certaines personnes vivent dans des milieux très encombrés et parfois insalubres, mais ce n'est pas tout le monde qui va montrer ce niveau de sévérité, souligne Catherine Ouellette Courtois. Propriétaire de la Maison Scorpion, une entreprise spécialisée en désencombrement, Stéphane Felteau intervient parfois dans des milieux à la fois encombrés et très propres. À un point tel que je mangerai sans problème sur le plancher, dit-il. Dans certains cas, les espaces communs dans la maison ne sont pas utilisables tant ils sont encombrés, mais dans d'autres cas, ils le sont. Catherine Ouellette Courtois précise : ça devient un trouble quand ça crée une détresse significative ou que ça interfère de façon significative dans le fonctionnement de la personne. Identité. Beaucoup de gens, dans la population générale, auraient de la difficulté à se départir de certains objets, mais dans le TAC, cette tendance prend beaucoup de place, explique la psychologue. Certaines personnes auront un attachement très fort envers des objets qu'ils perçoivent comme l'extension d'une personne, leurs enfants, par exemple. Pour d'autres, les objets accumulés ont une valeur identitaire, note Catherine Ouellette Courtois. Les gens qui s'identifient comme écolos peuvent accumuler des choses qu'ils ne veulent surtout pas jeter. Les bons parents, tous les dessins et bricolages de leurs enfants. Les gens à leur affaire, toutes les factures. Les gens au courant, les journaux. Les gens originaux, tel ou tel type de vêtement. Attachement. Il existe assez peu de recherches sur le profil de développement des gens ayant un TAC, mais souvent, constate la psychologue Catherine Ouellette Courtois, des difficultés en matière d'attachement ou des expériences traumatiques semblent nourrir le problème. S'il y a un très fort attachement émotionnel envers les objets, c'est peut-être parce que des liens d'attachement ont été difficiles à créer avec des humains, comme les parents ou les figures de sécurité, résume-t-elle. D'autres facteurs peuvent jouer, comme le fait d'avoir été élevé par des parents eux-mêmes atteints d'un TAC. Traitement. La thérapie cognitivo-comportementale demeure le traitement de choix pour le TAC. Le thérapeute aide la personne à se débarrasser des objets graduellement, du niveau le moins anxiogène au plus anxiogène, explique Catherine Ouellette Courtois, qui compare cela à un rituel d'au revoir. Si le TAC est sévère et que la cuisine et les corridors sont encombrés, ces zones seront priorisées afin que la démarche ait du sens pour la personne. Les psychologues utilisent aussi une approche basée sur les inférences qui vise à montrer aux patients que les scénarios imaginaires qu'ils se font ne sont pas ancrés dans la réalité. Concrètement, à quoi sert cet objet ici et maintenant? Si la personne est capable de constater qu'en ce moment, il fait juste prendre de l'espace, c'est là qu'on l'invite à s'en débarrasser, résume la psychologue. C'était « Submergé par les objets accumulés », un texte de Catherine Anfield, paru le 30 juin 2025 dans la presse.
La jeunesse et ses néologismes au service du français. Un texte de Sabrine Lacouche, paru le 24 juin 2025 dans La Presse. Vous est-il déjà arrivé, en tant que piéton, de croiser quelqu'un dans un espace restreint et que vous vous mettiez tous les deux à faire une petite danse maladroite de gauche à droite en tentant de vous contourner simultanément? Eh bien, cette situation a désormais un nom Evitango. Et ce sont des adolescents qui l'ont inventé. C'est en cours de français que 4 élèves de 5e secondaire à l'école Eulalie Durocher à Montréal ont uni leurs idées pour relever le défi lancé par leur enseignante. 180 élèves de cette école et ceux de 89 autres établissements scolaires dans la province ont participé à la 6e édition du concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française, OQLF. L'école Eulalie Durocher en est à sa seconde participation. Leur mission? Créer un équivalent français à l'expression anglaise « sidewalk salsa », pour laquelle il n'existait pas encore de terme en français. Parmi les suggestions proposées figurent synchro-danse, danse-trottoir ou encore fox-trottoir. C'est Evitango, créé par Woodley Antoine, Eloïc Vandelac, Firas Mamloul et Farhan Hussein qui a fait l'unanimité auprès du jury. La genèse de l'Evitango. Contraction du verbe éviter et du mot tango, Evitango désigne une situation où deux personnes, tentant d'éviter une collision, réagissent exactement de la même manière au même moment, créant une chorégraphie involontaire. Le défi, c'était de trouver un mot qui n'était pas dur à prononcer, mais que ça fasse du sens, explique Eloïc Vandelac, que la presse a rencontré à la mi-juin, à l'école, avec son enseignante de français, Aude-Marie Codebec. Son coéquipier, Woodley Antoine, raconte qu'il cherchait un mot que l'on peut dire fluidement et que l'on peut utiliser tous les jours. De nature compétitive, l'adolescent reconnaît que cette victoire lui a apporté non seulement une grande fierté, mais aussi le sentiment d'avoir contribué activement à la société en inventant un mot nouveau qui simplifie la langue. Les 4 élèves ont pris en compte plusieurs critères tout au long de leur réflexion. Aude-Marie Codebec s'est réjouie de faire participer ses élèves à ce concours. Animée par sa passion pour la langue, elle souhaitait la leur transmettre tout en les sensibilisant davantage à l'importance de son usage. Ça leur permettait de s'approprier le français et d'oxygéner la langue française. Au-delà de sa passion, Mme Codebec s'inquiète de voir l'anglais gagner du terrain chez ses élèves, au détriment du français. Elle voyait dans le concours une occasion engageante de renverser cette tendance. On vit dans une époque où l'anglais est très alléchant pour les jeunes. C'est l'espéranto, constate-t-elle. Éloïc Vandelac explique. Avec la nouvelle génération qui utilise TikTok, Snapchat et tous les réseaux sociaux, plein de mots se créent quand on discute en ligne, mais ne sont pas nécessairement mis dans le dictionnaire ou créés. Julie Auger, professeure de linguistique à l'Université de Montréal, est du même avis. Selon elle, le concours de créativité lexicale illustre bien que l'usage de nouveaux mots ne dépend pas de leur présence dans un ouvrage de référence. Le Larousse, le Robert, ne sont pas des livres fermés. On peut y ajouter de nouveaux mots, affirme-t-elle. Une relève à encourager. Les jeunes, croit Aude-Marie Codebec, ont un rôle essentiel à jouer dans la création de néologismes, puisqu'ils représentent l'avenir de la société. S'ils ne parlent plus le français, la langue meurt, affirme l'enseignante. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à partager cette opinion. Selon Julie Auger, De nombreuses réalités n'ont toujours pas de mots dans la langue française pour les décrire. Il faudrait donc offrir davantage d'occasions aux jeunes d'innover linguistiquement en les convainquant qu'ils ont non seulement le droit de le faire, mais aussi le plaisir de s'y prêter. Il y a cette idée très répandue, dit-elle, que le français est une langue comportant des règles très strictes et que seulement certaines personnes faisant partie d'une certaine élite ont le droit de créer et de changer la langue. Patricia Bouchard, directrice de l'école Eulalie du Rocher, se dit particulièrement fière des 180 élèves participants, dont les 4 lauréats. Environ 70 % des élèves de l'établissement n'ont pas le français comme langue maternelle. Il s'agit souvent de leur deuxième, voire troisième langue. Composée d'élèves issus de minorités, l'école se distingue par sa grande diversité culturelle. L'établissement se démarque également par son statut d'école secondaire partenaire. L'école Eulalie du Rocher accueille de nombreux élèves provenant d'écoles régulières, souvent en situation de décrochage, qui viennent y terminer leurs études secondaires ou suivre des cours requis pour accéder à une formation professionnelle. Que ces élèves qui ont ce parcours-là soient capables de se démarquer à la grandeur de la province avec un mot dans la langue française, j'ai beaucoup de respect pour ça, soutient la directrice. Les autres néologismes gagnants. Source, Office québécois de la langue française. Faut revoir. Situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge. Mot proposé par des élèves de l'école secondaire régionale Riverside. C'est l'ébloui. Se dit d'une personne qui, en raison d'une rencontre avec une célébrité, est frappée d'une impression si forte qu'elle est susceptible d'en perdre ses moyens. Mot proposé par des élèves de 11 établissements scolaires à travers le Québec. C'était « La jeunesse et ses néologismes au service du français ». Un texte de Sabrine Lacouche, paru le 24 juin 2025 dans La Presse.